Chapitre 106. Pour la première fois depuis des siècles, le passage s'est ouvert. Lorsque le battement sourd de la crémaillère a cessé, le bloc de roche s'est immobilisé au fond de sa cavité. En reculant, il a dégagé un espace sur le côté duquel se profilent les premières marches d'un escalier qui grimpe vers les hauteurs. Comme des animaux curieux mais méfiants, les cinq explorateurs scrutent l'accès apparu dans le roc sombre et les quelques marches qu'ils aperçoivent. « Je vais chercher les lanternes, » annonce Vincent, « mais avant d'entrer, nous devons décider qui de nous va rester à l'extérieur. » « Pourquoi ne pas y aller tous ensemble ?» bougonne Henri qui redoute déjà d'être écarté. « Parce que s'il survient quoi que ce soit, si pour une raison ou pour une autre cette porte se referme, personne ne nous retrouvera jamais. » Conrad lève la main. « Je suis volontaire pour rester. » « Moi aussi, » limite Pierre. « Vous nous raconterez. » Henri prend son air de chien battu. « Moi, je voudrais tellement venir. » Vincent lui tend une lanterne. « Promets-moi de ne toucher à rien. »
« Juré. »
Cavell, Adinson et le clou s'engagent dans la découpe, dont l'extrême précision contraste avec la matière brute dans laquelle elle a été pratiquée. Vincent s'y tient debout de justesse. Au sol, il remarque des travées métalliques disposées comme des rails, sur lesquels le chariot portant le parement vient d'accomplir son mouvement de translation. Adinson lève la tête vers l'escalier. Voilà donc pourquoi le donjon était adossé à la paroi de la grotte. C'est à travers elle qu'on y accède. À vous l'honneur, Charles, l'encourage Vincent. N'êtes-vous pas le plus qualifié face à ce qui pourrait nous surprendre? Je ne pense pas que nous soyons menacés dans cette enceinte. Nous en avons atteint le cœur. Gardez tout de même les yeux ouverts. Adinson escalade pas à pas les degrés sculptés dans le roc en les comptant à voix basse. Vincent laisse passer Henri et se prépare à fermer la marche. Il adresse un signe à ses complices restés à l'extérieur. Lorsqu'il n'est plus en vue de l'entrée et que ceux qui le précèdent ont pris de l'avance, il marque un temps d'arrêt. Il a besoin de ce moment, seul, même si ses équipiers ne sont pas loin. Il a du mal à prendre conscience qu'il se tient désormais dans l'antichambre du donjon. Les visions de tout ce qu'il avait imaginé se bousculent en lui, mais aucune ne correspond même de loin à ce qu'il vit au présent. Il songe à ses pères, à ceux qui lui ont ouvert la voie, et non sans émotion, leur dédie sa visite. Il pose la main sur une marche. Cette fois, comme s'il faisait corps avec lui, il ne craint plus de toucher ce lieu qui n'en finit pas de l'impressionner. C'est un véritable sentiment qu'il envoie silencieusement à la tour qu'il accueille. L'attachement qu'il éprouve pour cet endroit unique se double à présent d'une véritable dévotion. Il tente de se figurer les hommes qui ont bâti ce lieu. Quelle qu'ait pu être leur motivation, le talent et la persévérance dont ils ont fait preuve en disent long sur leur courage et l'élévation de leurs idéaux. La voix de Charles résonne plus haut, une exclamation de stupeur qui emplit l'espace, bientôt renforcée par celle d'Henri. Vincent s'élance pour les rattraper. Il survole littéralement les marches, qui l'amène à un modeste palier. Devant eux, une arche simple, sans grille ni porte, ouvre sur une pièce ronde, à l'abri de la muraille, couverte du sol au plafond de rayonnages à casiers, dans lesquels sont rangés une infinité de coffres de toutes formes et de toutes tailles. Il y en a des centaines, parfaitement ordonnées. Au centre de la salle, se dresse une table de bois ronde, rudimentaire, gravée de 12 quartiers égaux. Henri navigue d'un bord de la pièce à l'autre, intrigué par ces mystérieux coffres dont beaucoup sont à portée de sa main. Certains sont renforcés de ferrures, gainés de peaux tannées ou finement ouvragés, alors que d'autres sont de facture bien plus sommaire. Jouxtant un coffret de métal gravé, Vincent aperçoit une cassette incrustée de mosaïques. À côté, une urne taillée dans le marbre. La variété des styles traduit les époques et les provenances. Plusieurs sont pareils à des tonnelets, d'autres triangulaires et joliment ornés. Ils sont faits de simples peupliers, d'ébène artistement sculptée, de chêne en partie recouvert de toile ou orné de cuir repoussé, de bois clouté ou incrusté d'os, d'ivoire ou de nacre. L'accumulation des genres disparates n'est pas sans évoquer l'alliance des symboles qui orne la clé que Vincent porte toujours au cou. Plusieurs casiers ne contiennent que de simples caissettes de bois recouvertes d'une toile au tissage irrégulier qui en masque le contenu. Charles soulève l'une de ses étoffes avec précaution. L'éclat doré lui fait oublier toute prudence.
« Vincent, regardez !»
Henri accourt aussi, et tous découvrent un véritable trésor en pièces d'or. Des centaines de pièces de monnaie anciennes s'y entassent. Charles s'empresse de vérifier la caissette suivante et tombe sur une autre fortune, en argent cette fois. Il écarquille les yeux et prélève une pièce oxydée du bout des doigts. Il en examine les faces dans la lueur de sa lampe, sans reconnaître le profil usé dont elle est frappée. Vincent éclaire autour de lui. Il commence à saisir l'importance de ce qui l'entoure. Charles inventorie déjà d'autres contenants, révélant sans cesse de nouvelles richesses, écus, pièces de toute provenance, pierres précieuses en quantité phénoménale, innombrables réserves d'or sous toutes les formes possibles et valeurs en tout genre l'éblouissent. Henri a les doigts qui le démangent. Malgré sa promesse de ne toucher à rien, lui aussi soulève un coin de toile dans un autre casier.
« Vincent, des pépites d'or !»
Cavel le rejoint, mais il a déjà remarqué quelque chose. Chaque casier est surmonté d'un chiffre romain gravé dans le bois. Le contenu de ces niches n'est pas réparti au hasard. Chaque case doit correspondre à un usage précis, ou bien à un propriétaire. Charles vient de mettre la main sur une épaisse liasse de lettres de change. Les parchemins sont secs, l'encre est brunie et l'écriture aux initiales amples et déliées d'un autre temps. Il en passe quelques-unes en revue, captivé par les dates et les cachets de cire qui les authentifient.
« Qu'est-ce que c'est ?» lui demande Henri.
Des documents qui, au temps des croisades, permettaient aux pèlerins d'accomplir leur périple sans avoir à transporter avec eux des valeurs sonnantes et trébuchantes. Avant leur départ, ils effectuaient un versement dans une commanderie et se voyaient remettre une attestation de ce type qu'ils pouvaient présenter au terme de leur voyage dans l'établissement templier de leur destination, où la somme équivalente leur était remise. Ainsi, ils ne risquaient plus de se faire rançonner en chemin. Ce sont les Templiers qui ont inventé ce procédé et mis sur pied le réseau. Vincent écoute d'une oreille tout en continuant d'inspecter les différents coffres. Il passe de l'un à l'autre de plus en plus rapidement. Il ne trouve pas ce qu'il cherche.
« Qu'avez-vous ? » demanda Dinson, percevant sa fébrilité.
« On vous croirait déçu. Disons que je suis désappointé.
Vous rendez-vous compte ?» que nous avons sans doute découvert le trésor des Templiers, celui-là même que les rois ont convoité sans jamais réussir à se l'approprier.
Le témoignage parlait d'un trésor spirituel, et ces casiers ne contiennent que de l'or ou des pierreries. Je ne vois aucune relique, ni rien qui puisse s'en approcher. Il retourne à l'entrée et observe les marches qu'ils ont gravies. L'escalier mène directement à cette salle, et ne conduit nulle part ailleurs. Aucune autre possibilité que de monter jusqu'ici.
Et alors ?
62 marches nous ont conduits à environ 20 mètres de hauteur. Il se frotte le menton et s'interroge.
Pourquoi ceux qui se sont évertués à bâtir ce donjon n'en auraient-ils utilisé qu'une portion ?
Vincent, qu'avez-vous en tête ?
Dans quel but nous avoir amenés si haut.
Vincent baisse soudain les yeux. Il frappe le plancher du talon.
Qu'y a-t-il sous cette salle au trésor?
Il commence immédiatement à examiner le sol, le scrute avec fièvre, s'aventurant
jusque dans les moindres recoins. Aidez-moi à chercher. Il doit y avoir une ouverture quelque part. Henri se met aussitôt en chasse. Il déplace des coffres pour se glisser dans les casiers de rangement les plus bas. Certains sont si lourds qu'il ne parvient pas à les bouger et il est obligé de se contorsionner pour vérifier derrière.
Là, sous la table, lance tout à coup Charles. Regardez.
Vincent se précipite. Pas de doute. Dans le plancher se découpe une fine rainure circulaire. Les deux hommes déplacent le meuble posé dessus. Vincent glisse la lame de son couteau pour faire levier et tente de soulever ce qui ressemble à un large couvercle rond. À sa grande surprise, il réussit sans difficulté. Les trois compagnons se penchent sur le trou béant qui plonge dans l'obscurité.